Ah, la campagne. Quel plaisir au beau jour de s'éloigner du trafic toulousain pour prendre un peu de hauteur sur les coteaux de Pêche David. Les deux pieds dans l'herbe fraîche de cette jolie prairie qui jouxte l'hôpital Larrey, on se laisse lentement happer par la paix des lieux, le calme, le silence.
Vous avez dit calme ? Silence ? Je ne sais pas en quelle période de l'année vous arpentez ces lieux, mais si vous êtes là au printemps, ouvrez un peu les oreilles. Peut-être qu'il n'y a aucun bipède à l'horizon, mais cette prairie grouille d'une activité débordante. Regardez à vos pieds, jamais piste d'atterrissage n'a été aussi fréquentée. Eh oui, depuis la sortie de l'hiver et les premiers réchauffements, pour la flore et la faune qui se sont réveillées en même temps, c'est la grande course à la reproduction et à la survie de l'espèce. Et pour ce faire, la première a besoin de la seconde et réciproquement. Petite révision. À peu près comme toutes les plantes, les fleurs que vous observez entre vos pieds sont pourvues d'organes reproducteurs mâles, les étamines, qui hébergent le pollen, et femelles, le pistil, qui contient les ovaires. Pour qu'un fruit pousse et donne naissance à une graine qui donnera elle-même naissance à une autre plante, il faut qu'un grain de pollen soit amené à un pistil. Pas simple quand on est aussi peu mobile qu'une fleur. Mais la nature fait bien les choses, car voilà qu'interviennent les insectes pollinisateurs. En butinant de fleur en fleur, ils font taxi pour les grains de pollen et permettent la reproduction des plantes. Bon, ça paraît simple à première vue, mais les choses sont quand même un peu plus complexes. D'abord, parce que les plantes ne sont pas toutes faites sur le même modèle. Certaines possèdent des organes reproducteurs mâles et femelles dans la même fleur, d'autres ont des organes mâles dans certaines fleurs et femelles dans d'autres. Certaines plantes ont des fleurs mâles et des fleurs femelles incompatibles à la reproduction, d'autres ne font pas éclore les fleurs mâles et femelles au même moment, sans parler des plantes dont certains pieds ont des fleurs uniquement femelles et d'autres des fleurs uniquement mâles. Vous avez perdu ? C'est normal. D'autant qu'il faut ensuite que les insectes pollinisateurs transportent le pollen d'une fleur sur le pistil d'une autre fleur de la même espèce. Bah oui. Alors au vu de la diversité des fleurs qu'il y a autour de vous, c'est pas gagné. Et puis d'abord, pourquoi ces insectes volent-ils d'une fleur à l'autre ? Eh bien, il y a ceux qui viennent y pondre leurs œufs ou se reposer dans les cloches qu'elles peuvent former, mais la majeure partie obéit surtout à l'appel du ventre et vient chercher dans les fleurs l'alimentation nécessaire à son énergie. Parmi ces voraces, on distingue deux tendances gastronomiques, les consommateurs de pollen et les nectarivores. Le nectar est un liquide très riche en sucre dont raffolent nombre d'insectes comme les papillons. Pour autant, toutes les plantes n'en sécrètent pas. Pour qu'un insecte accède au nectar, il doit atteindre les nectaires, les poches à nectar qui sont situées de telle sorte à ce qu'en passant, l'insecte se frotte à l'extrémité des étamines où se trouve le pollen et en reparte chargé à son insu. Mais vous imaginez bien qu'accéder au sacro-saint nectar n'est pas donné à tout le monde. Ce qui fait que tous les insectes ne vont pas visiter toutes les plantes. Leurs millions d'années d'évolution conjointe ont donné naissance à un système de relations incroyablement divers et complexes et à la formation d'équipes gagnant-gagnant entre espèces d'insectes et de fleurs. La forme de la fleur, l'accessibilité du pollen et des nectaires, la composition en sucre du nectar, la période de floraison répondent souvent à la taille des insectes, la longueur de leur trompe, leur régime alimentaire et leur période d'éclosion. Et dans ce jeu de correspondance, on trouve toute une gamme de modes d'interaction. Certains insectes sont hyper spécialisés, ne butinant qu'une espèce de fleur dans une relation d'interdépendance. Tandis que d'autres sont très généralistes, passant allègrement d'une grande famille de fleurs à l'autre. Sans oublier bien évidemment les escrocs, qui transigent avec les règles et trompent leur monde, tant du côté des insectes que de celui des végétaux. Le résultat de tout cela, c'est la variété que vous observez autour de vous. Prenons la gueule de loup, mufliée, ou Atyrinum majus pour les scientifiques, très commune par ici. Vous voyez à quoi elle ressemble ? De longues tiges, pouvant parfois atteindre un mètre, avec des fleurs regroupées en grappes, dressées au-dessus d'un fin feuillage et souvent de couleurs vives, entre blanc, jaune, rose et rouge. On en trouve chez le fleuriste, mais elle pousse à l'état sauvage entre mai et septembre. Eh bien, savez-vous d'où lui vient son nom de gueule de loup ? Pressez donc les côtés de la fleur et vous aurez votre réponse. Vous verrez sa corolle s'ouvrir en une gueule béante. La gueule de loup est donc une fleur relativement fermée, son pollen et son nectar inaccessibles à de nombreuses espèces de butineurs. Mais elle convient très bien à certains membres de cet ordre d'insectes que sont les hyménoptères, et en particulier à la famille des bourdons. assez lourd et fort pour ouvrir la gueule de la fleur et accéder à l'objet de leur convoitise. Ils en ressortent gavés, recouverts de pollen et prêts à assurer la pollinisation. La famille Bourdon, oui, on parle bien de famille chez les bombus, qui comporte plusieurs espèces, est d'une efficacité redoutable en la matière. Bien moins connue que l'abeille domestique, star de la pollinisation, elle jouit de dispositions particulières. D'abord, les bourdons craignent moins le froid et les intempéries que de nombreuses autres espèces. On peut donc les voir voler des 5 degrés, et ce sont souvent les premiers arrivés et les derniers à partir au grand bal de la pollinisation. D'ailleurs, il arrive au printemps qu'ils sortent avant les fleurs à butiner. Ils ont alors une combine pour accélérer les choses. En mordant les feuilles de certaines plantes et les piquant de trous, ils avancent la floraison parfois jusqu'à 30 jours. En plus d'avoir un poids important qui permet un accès privilégié à des fleurs comme la gueule de loup, ils savent secouer à la bonne fréquence certaines plantes dites à pollinisation vibratile, qui ne libèrent leur pollen que sous leur secousse. Enfin, la famille des bourdons compte en ses rangs quelques petits malins qui, dotés de trompes trop courtes pour accéder au nectar de fleurs à corolle profonde ou fine, percent un trou à la base de la fleur et siphonnent le nectar sans passer par la case pollinisation. Il est une fleur commune dont les scientifiques se demandent si sa forme ventripotente n'est pas une protection contre les perforations des bourdons, le silène enflé. Vous voyez les fleurs de cette plante herbacée, avec laquelle tous les enfants ont un jour ou l'autre joué en essayant de les faire éclater ? On l'appelle parfois pétard ou pétarelle. Elle fait environ 20 cm, a un calice gris, veiné et gonflé comme une outre, d'où sortent 5 petits pétales blancs échancrés. Avec ce nectar bien planqué au fond, seuls quelques insectes à longues trompes s'y régalent. C'est le cas des lépidoptères, l'ordre qui regroupe les papillons. Ne consommant que des aliments liquides, ils ont de longues trompes qu'ils déroulent et enroulent pour pomper le nectar des fleurs les plus profondes et les plus étroites, et ce, même la nuit. C'est en effet parmi les papillons qu'on trouve les uniques pollinisateurs nocturnes, les hétérocères ou papillons de nuit. N'allez pas croire que parce qu'ils restent après les autres, ils ont la prairie pour eux. De nombreuses fleurs se ferment à la fin du jour ou cessent de produire du nectar. Mais d'autres attendent le coucher du soleil pour exhaler leur parfum et produire le liquide sucré. Le silène enflé est de celle-ci et les papillons en raffolent. Toutes les stratégies existent pour que les fleurs attirent les insectes et que les insectes repèrent les fleurs. Certaines sont olfactives. Les mouches sont par exemple attirées par des fleurs qui exhalent des odeurs peu ragoûtantes, rappelant les lieux de ponte de ces insectes. Cadavres, fumier, champignons. De nombreux insectes sont attirés par des couleurs particulières. Le jaune et le bleu ont un franc succès, mais certains préfèrent le rouge parce qu'il réfléchit les ultraviolets. On compte aussi de fines bouches, comme le papillon vanesse de l'ortie, autrement appelé petite tortue, qui n'affectionne que le bleu pourpre et le jaune rouge. Pour les plantes, la fin justifie les moyens. Et certaines dans cette prairie se sont spécialisées dans l'arnaque. Les orchidées de la famille des ophrys. Entre mai et juillet, vous pourrez par exemple croiser des ophrys abeilles. 3 grands pétales extérieurs, aussi appelés sépales, de couleur rose. Des pétales intérieurs jaunes, plus petits, à l'exception du pétale du bas, appelé labelle, qui forme une espèce de langue, velue, enflée, garnie de dessins jaunes et bruns, rappelant un abdomen d'abeille. Vous voyez où je veux en venir ? Mais elle n'est pas seule. Vous pourriez aussi croiser l'ophrys bourdon ou l'ophrys mouche. Si vous me suivez, vous imaginerez facilement à quoi elle ressemble. Ces fleurs insectiformes ont pendant longtemps intrigué les botanistes. Darwin lui-même s'arrachait les cheveux devant l'ophrys mouche.
« Quelque chose semble ne pas tourner rond dans la biologie de cette orchidée »,
a-t-il écrit. Et pourtant, à quelques exceptions près, les ophrys ne produisent pas de nectar, mais misent tout sur l'olfactif et le visuel. Elles attirent les mâles de certaines espèces pollinisatrices en imitant, par des parfums, une texture, une couleur, les signaux reproductifs de leurs femelles. Ces derniers, trompés par ce leurre, viennent s'agripper pour tenter de s'accoupler avec la fleur. Dans leur agitation, ils se frottent aux boules gluantes qui contiennent le pollen, qu'ils transportent ensuite jusqu'à la prochaine tentative de copulation. Et certains se laissent avoir jusqu'au bout. Des chercheurs ont ainsi relevé du sperme de guêpe dans l'orchidée australienne Cryptostylis. Toutes ces manœuvres coûtent en énergie. C'est pourquoi, une fois la pollinisation correctement effectuée, inutile de s'évertuer à attirer les pollinisateurs. On cessera donc de produire du nectar. Certaines fleurs, comme celle du lotier, changent de couleur pour éviter aux insectes un passage inutile, passant du jaune à l'orange qui signifie « trop tard ». Avouez que vous n'imaginiez pas la complexité du sabbat qui se déroule sous vos yeux. Mais sans vouloir casser l'ambiance, tout cela ne tient plus qu'à un fil. En 2019, 41% des espèces d'insectes du monde étaient en danger critique d'extinction. Imaginez ce que serait cette prairie sans insectes, et par rebond sans toutes ces fleurs.